VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 15 mai 2020. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. Au Burkina Faso, un collectif contre la stigmatisation des communautés exige une enquête après la mort de 12 personnes dans leur cellule. Le Bénin maintient la tenue des élections municipales pour ce dimanche malgré la pandémie du Covid-19. En République démocratique du Congo, suite à la controverse sur la fabrication des passeports biométriques, le gouvernement ne va pas renouveler le contrat de la société belge Semlex. Le déconfinement se poursuit dans plusieurs pays alors que la pandémie de Covid-19 a fait plus de 300 000 morts dans le monde. Également dans cette édition du Monde Aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Au Burkina Faso, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés exige une enquête spéciale après la mort de 12 personnes dans leur cellule à Tambwal-Bougou. Ce collectif soupçonne la gendarmerie d'exécutions sommaires et extrajudiciaires. Jacques Aristide.
Les autorités burkinabées indiquent que ces 12 personnes, avec 13 autres, avaient été arrêtées pour suspicion de faits de terrorisme. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Fadam Gourma, mais pour le collectif contre l'impunité, ces accusations ne correspondent en rien aux témoignages qu'il a recueillis et recoupés. Les arrestations, dit-il, ont concerné une quarantaine de personnes, dont certaines étaient à l'intérieur de la mosquée du marché de Penchangou, près de Tanwal-Bougou. La plupart de ces civils auraient été torturés et exécutés le même jour, sans enquête préalable et sans autre forme de procès, ajoute le collectif. Pourquoi aucune autopsie n'a-t-elle été pratiquée ? Et les corps sont-ils difficilement reconnaissables ? Se demande l'ONG. Pour elle, les gendarmes ne peuvent pas enquêter sur une affaire dans laquelle ils sont directement impliqués. D'où sa requête d'une commission d'enquête spéciale pour une meilleure recherche de la vérité. Elle demande également que la justice internationale soit saisie. Les forces de l'ordre du Burkina ont été accusées ces derniers mois de bavures ou d'exactions, notamment contre les communautés peules, soupçonnées de complicité avec des groupes terroristes.
Au Bénin, les autorités maintiennent les élections municipales prévues ce dimanche. Ce scrutin se tiendra dans un contexte de crise politique malgré les risques sanitaires provoqués par la pandémie de Covid-19. Éric Manirakiza.
Dimanche, les listes des 77 communes du Bénin proposent des candidats de 5 partis plus ou moins proches du pouvoir. Mais la population s'inquiète surtout de la propagation du coronavirus. Le gouvernement a interdit les meetings politiques et les rassemblements de plus de 50 personnes. La campagne électorale est donc limitée aux affichages et des messages diffusés par les médias. Pour le collectif pour la sauvegarde de la démocratie, un collectif de la diaspora béninoise, cette élection est une vaste escroquerie politique et présente un caractère exclusif. Ce collectif lance un appel à l'abstention. En avril, la Cour africaine des droits de l'homme avait demandé au Bénin de suspendre ses élections qu'elle a jugées non inclusives en entraînant le retrait du Bénin de cette cour accusée d'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays.
Au Libéria, les autorités judiciaires ont abandonné les poursuites contre 4 anciens cadres de la Banque centrale, dont le fils de l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf. Ils ont été inculpés l'an dernier de sabotage économique et d'autres délits après qu'une enquête a révélé la disparition de plus de 80 millions de dollars. La prière du vendredi a de nouveau été suspendue en Mauritanie en raison de nouveaux cas de contamination par le coronavirus, une semaine seulement après son rétablissement. Les fidèles avaient pu prendre part en nombre à la prière collective le vendredi dernier, le gouvernement ayant assoupli les restrictions. La Mauritanie ne déclarait alors que 8 cas de contamination, dont 6 guéris et une seule personne sous traitement. Mais ce pays musulman de 4 millions d'habitants a connu cette semaine une progression portant à 26 cas déclarés, 2 décès, 18 sous traitement et 6 guéris. Au Cameroun, 6 bénévoles qui distribuaient des masques et du gel hydroalcoolique dans le cadre d'une initiative du principal opposant au président Paul Biya sont en garde à vue depuis lundi. C'est ce qu'a affirmé ce vendredi Hippolyte Méli, l'un de leurs avocats. La police les accuse de distribution illégale de cache-nez et de gel hydroalcoolique, a ajouté leur conseil, précisant qu'ils étaient toujours en garde à vue ce vendredi. Le pouvoir avait déjà empêché une collecte de fonds pour lutter contre le coronavirus lancée par Maurice Kamto. Le parti du président centrafricain Faustin Archange Touadéra a signé ce vendredi un accord avec une trentaine de partis politiques entérinant la création d'une plateforme de soutien à sa candidature pour la présidentielle de décembre 2020. Cette plateforme va s'appeler Beoko, a déclaré à la presse Simplice Mathieu Sarandji, secrétaire exécutif du parti au pouvoir. Élu en 2016, Faustin Archange Touadéra n'a toutefois pas encore officialisé sa candidature. L'accord signé vendredi stipule que le MCU de Faustin Archange Touadéra et les partis signataires s'engagent à se soutenir mutuellement aux prochaines élections présidentielles et législatives. La République démocratique du Congo a annoncé la non-reconduction du très controversé contrat avec une société belge pour la fabrication de passeports biométriques. Cette société fait l'objet d'une enquête à Bruxelles et mobilise les ONG anticorruption à Kinshasa. Le point avec Lionel Gaïma.
Le contrat passé en 2015 avec la société belge Semlex ne sera pas reconduit en juin prochain, a annoncé dans un tweet Kasongo Mwema Yambayamba, porte-parole du président Félix Tshisekedi. Réunis au sein de la plateforme « Le Congo n'est pas à vendre », les ONG anticorruption ont demandé mercredi au gouvernement de ne pas renouveler, sous aucun prétexte, ce contrat qui expire le 10 juin prochain. Elles estiment qu'à 185 $, le passeport congolais est parmi les plus chers du monde et que sur ce montant, 60 $ sont reversés à une société écran dénommée LRPS. Selon cette plateforme, avec plus de 600 000 passeports, la société écran pourrait avoir encaissé plus de 36 millions de dollars. Ces ONG ajoutent que 51 citoyens se sont constitués partie civile dans l'enquête en cours en Belgique contre la société SA Semlex Europe. Le parquet fédéral belge a confirmé qu'un juge d'instruction enquête depuis 3 ans sur des soupçons de fraude visant cette société. Maître Luc Stalars, avocat de la société belge, a rappelé que depuis 2017, Semlex refute l'ensemble des insinuations malveillantes rapportées à son encontre.
Au moins 17 attaques ont été enregistrées depuis janvier contre des établissements hospitaliers dans la capitale libyenne Tripoli et sa banlieue. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi la mission de l'ONU en Libye. La dernière en date a eu lieu hier contre l'hôpital central de Tripoli, a ajouté la mission onusienne qui condamne tous les actes qui mettent la vie des civils en danger et empêchent l'accès aux services de secours. En avril 2019, le maréchal Haftar, homme fort de l'Est, a lancé une offensive pour s'emparer de Tripoli où siège le gouvernement d'union nationale.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de coronavirus a fait plus de 300 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Après des semaines de confinement, de nombreux pays tentent une reprise progressive pour relancer leur économie. Eki Abadou.
3 mois après le premier cas de coronavirus enregistré en Égypte, l'Afrique n'a pas connu le cataclysme redouté, mais la prudence reste de mise. En Côte d'Ivoire, les fameux maquis d'Abidjan, la capitale économique, vont rouvrir ce soir. Au Sénégal, en ce vendredi de Ramadan, les grandes mosquées de la capitale sont restées fermées, malgré une réouverture de lieux de culte annoncée lundi par le gouvernement. En Europe, les économies sont entrées dans une récession sans précédent. Locomotive européenne, l'Allemagne a confirmé une chute de 2,2% de son activité au premier trimestre, avec un recul attendu de 6,3% pour l'ensemble de l'année. Ce week-end, le championnat de foot allemand va reprendre dans des stades vides et suivant un cahier des charges sanitaires draconien. Pionnière en matière de déconfinement, l'Autriche a franchi une étape symbolique avec la rouverture des restaurants et des cafés viennois. Les Français aussi s'apprêtent à vivre leur premier week-end sans confinement. Aux États-Unis, le président Donald Trump a invité les citoyens à retourner au travail. Plus de 30 millions d'Américains ont perdu leur emploi en 8 semaines. Les plages de Los Angeles ont rouvert. Par contre, Andrew Cuomo, gouverneur de l'État de New York, a prolongé le confinement jusqu'au 13 juin.
Au Brésil, le ministre de la Santé, Nelson Teich, a présenté sa démission pour des divergences de vues sur les mesures de lutte contre le coronavirus avec le gouvernement. Il aura été un très éphémère ministre de la Santé du président Jair Bolsonaro, ayant occupé moins d'un mois ce portefeuille crucial au Brésil, où la pandémie a déjà tué près de 14 000 personnes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La Banque africaine de développement a interrompu son contrat avec une entreprise de génie civil tunisienne pour une période de 13 mois. Selon la BAD, l'entreprise de travaux et d'études de projet SA s'est livrée à diverses pratiques frauduleuses lors de sa participation à des marchés financés par la banque dans le cadre du projet d'aménagement routier et de facilitation du transport sur le corridor Bamako-Zantié-Bougou-Boundiali-San Pedro au Mali et du projet de reconstruction de la route Koya-Farmorea, frontière de la Sierra Leone en Guinée. Le Ghana veut créer 5 000 emplois dans 4 ans en vue de promouvoir et de soutenir les projets écologiques. L'initiative s'adresse principalement aux jeunes, aux femmes et aux migrants de retour au pays. Elle permettra de former et de financer les porteurs de projets verts tels que le recyclage des déchets plastiques, la fabrication et la distribution de foyers écologiques ou encore la production de compost. Un support sera également offert aux petites et moyennes entreprises actives dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de l'eau et de l'assainissement sous forme d'incubation et d'accélération de leur développement. Le Rwanda et la RDC ont signé un accord en vue de préserver la biodiversité du lac Kivu dans le cadre de l'exploitation de ses ressources énergétiques. Les deux pays visent à encadrer l'exploitation du méthane contenu dans le sous-sol du lac pour permettre la production électrique. La quantité de méthane présente dans le lac Kivu permettra la production de 700 MW d'électricité sur une période de 55 ans.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir à tous. Le Bayern Munich sera privé de 3 de ses joueurs dimanche pour sa reprise de la Bundesliga à Berlin contre l'Union. Niklas Süle, le pilier de la défense centrale, la soigne depuis octobre une rupture des ligaments du genou et espère rejouer d'ici la fin de saison. Le Français Corentin Tolisso et le Brésilien transfuge du Barça Philippe Coutinho récupèrent tous les deux d'une opération à la cheville fin avril. Le Bayern, en tête du championnat avec 4 points d'avance sur Dortmund, n'a plus joué depuis le 8 mars et l'entraîneur reconnaît qu'il a du mal à évaluer la forme de ses joueurs. Pour la reprise demain, le Borussia Dortmund fera face à Schalke 04 dans le derby de la Ruhr. Reprise annoncée également en Russie. D'après Sergei Prikin, président de la Première Ligue, la saison de Première Ligue reprendra le 21 juin. Les matchs restants se dérouleront sans spectateurs. Les limitations sur la tenue d'événements de masse sont toujours en vigueur. A précisé le président de la Première Ligue russe, les championnats de la Serbie et de la Turquie vont suivre en reprenant respectivement le 30 mai et le 12 juin. En Espagne, la Liga envisage un retour à la compétition en juin. En Italie, aucune décision sur la reprise ou non du championnat n'a pour l'heure été prise. Pour rappel, la France et les Pays-Bas ont définitivement arrêté leur saison de football. Ici aux États-Unis, le championnat nord-américain de football a prolongé l'arrêt des entraînements collectifs ou par petits groupes pour ses équipes jusqu'au 1er juin. La MLS a autorisé la semaine dernière les joueurs à réintégrer sur la base du volontariat pour y effectuer des séances individuelles. Sur les 26 clubs composant la Ligue, 9 n'ont pour l'heure pas encore eu le feu vert de leur état pour laisser leurs joueurs réintégrer les terrains. Pour les joueurs des autres équipes, des protocoles à respecter ont été mis en place, notamment la distanciation physique, le port de masque et la prise de température à l'arrivée sur le site avant de rejoindre ensuite sa portion de terrain pour s'entraîner. Athlétisme pour finir, le Comité international olympique a dégagé une enveloppe de 800 millions de dollars pour faire face aux conséquences de la crise liée au coronavirus. Le président du CIO, Thomas Bach, a précisé que 650 millions de dollars seraient consacrés au report des JO de Tokyo à 2021 et les 150 millions de dollars iraient aux fédérations internationales touché par la crise liée au coronavirus. Le CIO a par ailleurs adopté les dates de la prochaine saison, organisée pour la première fois de façon virtuelle et qui se tiendra le 17 juillet prochain.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Retour sur les 12 détenus retrouvés morts dans la nuit du 11 mai dans les locaux de la gendarmerie de Tanwal-Bougou, dans l'est du Burkina Faso. L'une des victimes est le frère de Mokhtar Bari, le maire de la commune de Mansila, dans le nord du pays. Il explique à VOA Afrique que son frère est parti dimanche à Tanwal-Bougou et n'est plus jamais revenu. Son corps a été retrouvé avec ceux des 11 autres détenus morts dans les locaux de la gendarmerie. Le maire de Mansila a été joint dans la ville de Fada, dans l'est du pays, par Bagassi Koura.
Mon frère qui était avec la famille ici, lundi, il m'a appelé, il m'a dit qu'il va aller rendre visite à notre oncle à Tanwal-Bougou. Lundi matin, je n'ai pas eu ses nouvelles. Bon, moi, je me suis dit qu'il est parti de son voyage. Jusqu'à 19h, il y a un cousin qui m'appelle vers 19h, me dit bon, qu'Abdoulaye a quitté vers 12h pour aller à Tanwal-Bougou. Comme c'est 45 km pour aller revenir, mais depuis lors, ils n'ont pas ces nouvelles. Donc moi aussi, j'ai tenté ces deux numéros, j'ai trouvé que ça ne passe pas. Bon, j'ai lancé alerte, j'ai informé mes amis. Donc, mardi soir, j'ai quitté Djoli vers 16h, arrivé à Ouaga, je continuais avec Aziz et Jambo à Fada. Et le lendemain, on est arrivé à la gendarmerie et ils nous ont confirmé que mon frère est resté dans cette affaire.
Dans cette affaire, qu'est-ce qu'ils vous ont expliqué concrètement?
Bon, c'est selon ce qu'ils ont communiqué officiellement, c'est ça, oui, ils nous ont expliqué.
Qui sont morts dans leur cellule.
Dans leur cellule.
Et vous avez pu voir ces dites cellules-là?
Bon, on n'a pas. Parce que le corps était déjà amené à la morgue de Fada. Donc, on n'a pas été allé. Bon, on n'a pas pu aller à Tanwal-Bougou. On s'est resté à Fada pour l'inhumation.
Oui, pour l'inhumation. Est-ce que vous avez pu voir le corps pour voir s'il a pu subir des sévices ou des traces de balles?
Le matin, on était à la morgue. Ils nous ont dit, bon, comme il n'y a pas d'autopsie au niveau des FADA, il faut qu'un infirmier examine le corps avant qu'on enlève. Et non. Ils préfèrent qu'on enlève, amener au cimetière. Si on met dans le trou, peut-être on va chercher à ouvrir pour identifier qui est qui.
Et c'est ce que vous avez fait?
Parmi les parents des victimes aussi, on était deux qui étaient présents. Parce que tout le monde se méfiait de venir. On a lancé appel à tous les jeunes qui sont à Fada, on s'est réunis. Et puis on allait creuser une fosse commune et puis une fosse une tombe pour mon frère aussi à part.
Toutes les victimes sont des Peuls?
Tous les 12 sont des Peuls. Aucun autre. Tous les victimes, c'est Diallo, Bali, Lido, Diané. Il n'y a pas autre ethnie. Tous les détenus.
Est-ce que vous avez pu échanger avec les survivants?
Pour le moment, on n'a pas vu les survivants. Non.
Est-ce que vous avez un message pour le gouvernement?
Le message que je lance pour tous les Burkinabés, c'est de faire en sorte qu'on trouve une solution pour résoudre ces problèmes.
C'était Mokhtar Bari, maire de la commune de Mansila, au Burkina Faso. Au Congo-Brazzaville, le confinement s'achève officiellement ce samedi 16 mai, mais dans plusieurs quartiers de la capitale congolaise, les habitants se plaignent de l'insuffisance, voire de la cacophonie de l'information sur cette maladie. De Brazzaville, la correspondance de Arsène Séverin.
En attendant le déconfinement, les Brazzavillois restent fixés sur les mesures qu'annoncent régulièrement les autorités sur l'évolution de la situation dans le pays. Nombreux jugent ces efforts insatisfaits, notamment des informations sur les cas de contamination.
La Coordination nationale de la gestion de la pandémie de coronavirus nous publie le chiffre de 341 cas positifs, 90 cas guéris et 11 décès. Ces chiffres sont bouleversés dans la même soirée par la Coordination nationale technique qui, à son tour, publie 391 cas confirmés, 87 guéris et 15 décès. Qui croire des deux ?
Et on ne sait plus exactement ce qui se passe et qu'est-ce qui ne va pas. Et nous voulons également savoir réellement comment se fait la prise en charge des personnes qui sont malades.
Mais bon, comme la gestion est ce qu'elle est, parfois on se dit c'est mieux de se tourner vers Dieu et de faire confiance à Dieu plutôt que de faire confiance à ce comité mis en place pour la gestion de cette pandémie.
Sur la connaissance de Covid-19 elle-même, une partie de la population, particulièrement celle qui habite les quartiers périphériques, disent ne pas avoir assez d'informations.
Moi, j'aurais voulu que la coordination prenne l'initiative d'envoyer les gens dans nos quartiers avec les mégaphones pour faire sans cesse la communication de proximité. Donc cette communication ne doit pas se limiter si elle a été faite, je ne sais pas, une semaine ou je ne sais pas comment. Ça doit être continuel parce que la maladie existe encore.
Et en dehors du coronavirus, malheureusement, le gouvernement parle des actions au futur pour aider la population. On a l'impression de vivre dans une tour de Babel. Nous sommes déçus.
Au niveau de la gestion de la pandémie à Brazzaville, les autorités locales dénoncent le fait qu'elles aient été mises à l'écart. Marcel Nganongo, maire de la commune de Wenze.
Moi, ça me choque. Je pense que la manière la plus idéale, ça sera peut-être de donner ces chiffres-là et de faire avec les maires. Et le maire d'arrondissement, tel que moi, je suis à Wenze, j'ai 25. Dans mon fort intérieur, je dois savoir d'où viennent les 25. C'est dans quel secteur. Et quand je vois qu'il y a quelque chose qui se passe autour et tout, je saurai avec ma manière comment sauver ma population.
Le gouvernement appelle la population à respecter les mesures barrières et d'autres consignes édictées par les autorités sanitaires. Demain samedi, le Premier ministre Clément Mwamba annoncera comment se fera le déconfinement, car ce 16 mai marque la fin du confinement général dans le pays. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Zimbabwe, l'eau insalubre aggrave les risques liés au Covid-19 selon des organisations humanitaires. Ces ONG estiment que la lutte contre la pandémie est compliquée par la grave crise dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Jacques Aristide.
Un camion-citerne arrive dans la ville de Chitungwiza. Un jeune garçon court sur le chemin de terre et donne l'alerte. Violette Manuel quitte hâtivement les funérailles de son oncle. La Zimbabwéenne de 72 ans se précipite chez elle à quelques mètres de là, saisit deux bidons et se dirige vers le terrain de football. Là, un groupe de boxeurs professionnels, désormais en charge de la distribution d'eau, ont du mal à convaincre des dizaines d'habitants d'observer la distanciation sociale alors qu'ils prennent d'assaut le camion-citerne. Pour Violette Manuel, qui porte sur le dos son petit-fils de 2 ans, les gens n'ont pas le choix.
Ils étaient sur le point de nous offrir de déjeuner aux funérailles, mais je savais que je devais courir dès qu'on a annoncé l'arrivée du camion-citerne. Et oui, j'ai pu avoir de l'eau, mais il y a de fortes chances que j'ai aussi attrapé la maladie. La distanciation sociale ici, impossible d'éviter de se bousculer. Tout le monde veut de l'eau.
Les 40 litres qu'elle a pu se procurer ne serviront toutefois pas au lavage régulier des mains, mais plutôt à des tâches qu'elle dit plus importantes, telles que pour faire la vaisselle et remplir la chasse d'eau des toilettes. Les scènes dans cette ville zimbabwéenne d'environ 500 000 habitants mettent en exergue les difficultés liées à la mise en œuvre des mesures recommandées pour endiguer le coronavirus dans les agglomérations et les camps de réfugiés en Afrique. En revanche, dans le quartier de Matererini, à Harare, la distanciation sociale est pratiquée à 1.2 de Médecins sans frontières. Stanley Chimwaza est un habitant du quartier.
Nous remercions MSF pour ces points d'eau parce que nous avions désespérément besoin d'eau. Mais la faim nous frappe surtout en cette période de COVID-19. Nous pouvons mourir à la fois de malnutrition et de COVID-19. Nous avons donc besoin de nourriture.
L'ONG Human Rights Watch demande au gouvernement zimbabwéen d'inclure d'urgence la fourniture d'un accès continu et bon marché à de l'eau salubre et en quantité suffisante pour toute la population parmi les mesures à prendre pour lutter contre le coronavirus. Trois mois après, l'Afrique n'a pas connu le cataclysme redouté, mais l'Organisation mondiale de la santé prévient que le continent pourrait devenir le prochain épicentre de la maladie et 300 000 personnes pourraient en mourir.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Elle s'appelle Kibonen Fui, elle est styliste camerounaise et réside dans le Maryland, ici aux États-Unis. Après un voyage en février dernier au Cameroun, Kibonen Fui a contracté le coronavirus. Rétablie, elle raconte comment elle a survécu à cette maladie. Elle est au micro de Yacouba Wetraogo.
J'ai commencé à avoir mal au cou et tout. Et j'ai commencé à prendre les remèdes comme ça. Je me suis dit, ah, apparemment c'est la période encore. Donc j'ai commencé à prendre l'onzinge, thé, le gingembre. J'ai commencé à prendre tout ça là. Et ça fait 2 semaines. Ce n'est jamais si long. Donc ça a commencé à m'inquiéter. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça faisait mal, un genre vraiment, vraiment mal. Mais quand ça a commencé à baisser, j'ai commencé à avoir une fièvre. Tellement la fièvre était élevée. J'avais les maux de tête, les migraines vraiment élevées. Du coup, je me suis dit, oh, je suis sûre que j'ai attrapé le palu comme je venais de rentrer de l'Afrique. C'était exactement comme le palu. Mais je pense que ça faisait même plus mal.
Qu'est-ce que vous avez fait alors?
J'ai fait mes recherches sur Google. J'ai mis toutes les descriptions de ce que je me sentais. Et j'ai vu certains articles sont sortis. Et quand j'ai lu ces articles, c'était ce que les gens qui étaient COVID-19 positifs, qui avaient ça.
Quel a été votre ressenti à cet instant?
Ça m'a vraiment choquée parce que nulle part je ne pouvais croire que j'avais COVID-19. Malgré moi, j'ai fait le test. Et puis on m'a dit, retournez, on va vous appeler pour vous donner votre résultat. Donc c'est effectivement ce qui s'est passé. Quand on m'a appelé pour donner le résultat, dans ma tête, honnêtement, je refusais que ça ne pouvait pas être. Malheureusement, c'était...
Alors, vous découvrez que vous avez contracté le coronavirus, le choc est évident.
J'avais honnêtement peur parce que je pensais qu'il n'y avait même pas de solution au niveau des docteurs. Surtout avec ce que je voyais sur le journal, sur ce que je voyais sur Facebook et tout, j'ai tellement paniqué, j'ai pleuré, j'étais désespérée en fait. Et puis je ne pouvais même pas avoir quelqu'un vraiment m'aider, quoi. Parce que si je dis à quelqu'un que j'ai le virus, personne ne va venir autour de moi. J'ai une maman qui habite avec moi, donc elle m'a amenée à manger des fois devant la porte. Le premier jour que je suis sortie de chez moi était peut-être après 2 mois, donc vraiment juste pour aller devant la porte.
Vous vous êtes rétablie en attendant un test confirmatif, bien sûr. Quelle leçon de vie vous retenez après cette expérience?
Comme je suis styliste de profession et j'ai un atelier de production au Cameroun, j'ai décidé d'offrir les services de mon atelier pour qu'on essaie de faire les masques pour distribuer gratuitement dans les différentes régions du Cameroun. En Tanzanie, en Ouganda, au Nigeria, j'ai fait les partenariats avec les différents stylistes pour qu'ils confectionnent les masques qu'on va donner aux différentes personnes dans les marchés et partout.
C'était la styliste camerounaise Kibonen Fui.
Mes chers auditeurs et auditrices, Senato Camara, votre artiste, chanteuse, compositrice. Aujourd'hui, nous luttons contre l'invisible coronavirus, une pandémie qui ravage nos vies autour du monde. Pour sauver ma vie et celle des autres, je respecte le confinement et les distances de sécurité. Je prends mes mesures sanitaires. Je me couvre le visage quand je tousse ou quand j'éternue. Je me lave les mains régulièrement et porte des gants lorsque je sors de chez moi. Mes chers amis, famille, fans de tous les jours, auditeurs et auditrices. Pour mettre fin à cette pandémie, protégez-vous et protégez votre entourage. À très bientôt dans nos vies de tous les jours et dans les concerts. Portez-vous bien et prenez soin de vous.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde de Lionel Gaïma, Georges Léonard Sagno, Michel Joseph et Joselle Morissa. À la présentation, Abdourahmane Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.